comme les bons chefs d'entreprise, assurez la fin de carrière de vos employés sans préjudice en choisissant Sounou Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Avant de partir en voyage, on pense aux bagages les plus pratiques, aux tenues adaptées au changement de climat, aux cadeaux quand on rend visite à la famille, aux guides touristiques ou à l'appli pour trouver les bonnes adresses loin de chez soi. Mais à l'approche des congés, on oublie souvent un élément essentiel de ces préparatifs, la consultation du voyage pour les mieux organiser et pour les autres, au moins, penser à vérifier ses vaccins et anticiper suffisamment pour être déjà protégé au moment de l'arrivée, se faire prescrire des traitements préventifs en fonction de la destination choisie et s'équiper d'une trousse à pharmacie regroupant l'indispensable. Avec les kilomètres au-delà du changement d'environnement, les conditions d'hygiène sont bouleversées ainsi que certaines habitudes. On s'expose différemment, on doit composer avec une offre différente en matière médicale. Bref, le dépaysement, ça concerne aussi la santé, les risques, l'accès aux soins et aux traitements, mais aussi tout simplement ce que l'on mange, les lieux où l'on dort et parfois jusqu'à l'accès à l'eau potable. D'où l'importance de s'équiper avant le départ, rester vigilant et en cas de symptômes, ne pas oublier de signaler que l'on est de retour de voyage lorsque l'on consulte. La prévention des pathologies du voyage, c'est faire en sorte de ne ramener que de bons souvenirs. Pathologie du voyage, bien se préparer, anticiper, poser les bonnes questions pour en parler avec nous. Docteur Jean-Pierre Donne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin au Centre Médical International à Paris. Santé publique France vient tout juste de publier les recommandations sanitaires pour les voyageurs dans l'une des toutes dernières éditions du bulletin épidémiologique hebdomadaire. Nous serons tout à l'heure en ligne avec le professeur Daniel Camus, médecin responsable de la veille et diffusion numérique d'informations sanitaires. Et puis, nous retrouverons le docteur Fatouma Guindo, directrice médicale de la polyclinique Guindo à Bamako. Docteur Guindo, qui elle aussi est spécialisée de consultation dans ces pathologies du voyage. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et puis bien sûr, comme chaque jour, on attend vos messages sur notre page Facebook. Appelez-nous pour poser toutes vos questions. 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Alors, il peut s'agir de vacances, de missions professionnelles, d'expatriation ou même d'un périple initiatique. Quelles que soient les motivations pour un voyage, ça se prépare. Alors, conseil à donner, on va répéter tout au long de cette émission, docteur Jean-Pierre Donne. Cette consultation du voyage, on en parle aujourd'hui sur RFI, mais est-ce que c'est vraiment entré dans les mœurs? Est-ce que tout le monde y pense avant de partir? Comment ça se passe? Les entreprises disent, par exemple, quand le séjour est assez long, il est indispensable d'aller justement rencontrer un médecin pour cette consultation spécifique?
Oui, alors pour les entreprises, souvent, en interne, ils ont déjà un médecin qui va les conseiller pour leur dire exactement ce qu'il faut prévoir. Pour les particuliers, c'est un peu différent. Je pense que ils font ça au dernier moment, le plus souvent. Et donc, ils viennent nous voir au centre de vaccination parce qu'on leur a dit il faut faire quelque chose, tu as un vaccin obligatoire à vérifier, etc.
Et c'est pour ça justement qu'on a programmé cette émission début juin, parce que ça laisse le temps de se préparer à temps. On peut dire justement il faut un bon délai de 3 semaines, 1 mois pour cette consultation avant de partir.
Oui, d'autant que pour certains vaccins, donc il faut un recul, que les anticorps aient le temps d'être là pour faire face à d'éventuelles pathologies sur place. Donc effectivement, 3 semaines, c'est l'idéal. Le plus souvent pour nous, c'est des gens qui vont partir la semaine d'après.
Donc finalement, vous n'avez plus vraiment le temps. Ils partent un petit peu, ils s'y sont pris un petit peu trop tard.
Ils s'y sont souvent pris trop tard et on est donc obligé de leur dire de renforcer, on en parlera tout à l'heure peut-être, la protection contre les moustiques dès leur arrivée. Puisque là, ils sont encore un petit peu vulnérables.
Ça veut dire que quand on part une semaine, quand on se prépare une semaine avant, docteur Jean-Pierre Donne, pour ce qui est du paludisme, on peut malgré tout prendre les traitements préventifs.
Alors voilà, pour le paludisme parasito, c'est un peu différent puisque on prend souvent le comprimé la veille du départ et donc quand on arrive, on est déjà protégé.
Par contre, pour d'autres traitements, il faut davantage anticiper?
Alors, pour ce qui est des traitements préventifs comme les vaccinations, il faut sûrement un bon recul pour avoir une quantité d'anticorps suffisante.
Et puis, il y a carrément des vaccins obligatoires, docteur Jean-Pierre Donne, sur certaines destinations, c'est clair. Si on n'a pas le fameux petit carnet de vaccination jaune, eh bien, à la frontière, il va falloir passer soit par une seringue sur place, soit carrément faire machine arrière.
Oui, on ne parlera pas des francs CFA. Mais effectivement, la fièvre jaune dans la région africaine intertropicale est obligatoire, comme elle l'est aussi en Amérique du Sud, du nord de l'Argentine jusqu'à Panama. Et effectivement, les futurs voyageurs vont passer par un centre de vaccination international qui va délivrer le carnet OMS obligatoire. Et donc, ils le font, en sachant maintenant en plus que cette vaccination, dès lors qu'on a plus que 2 ans, va être une fois pour la vie.
Et justement, quand on voyage vers ces destinations, on a 3 éléments en poche, on a souvent un visa, on a son passeport et surtout ce petit carnet à ne pas oublier. Voilà. Très concrètement, hein, cette consultation du voyage, docteur Jean-Pierre Donne, c'est aussi l'occasion de se montrer curieux et d'avoir des renseignements très concrets sur la situation sanitaire du pays dans lequel on se rend. Par exemple, bien évidemment, l'offre médicale n'est pas partout la même. Savoir que dans certaines régions, ça va être beaucoup plus compliqué quand on a un problème de trouver un médecin.
Effectivement, donc on a une grande inégalité en fonction des pays. Et donc, il faut prendre ses précautions le plus tôt possible et avant de partir.
Alors tout de suite, une petite illustration avec une consultation du voyage.
Priorité santé sur RFI.
Et notre reporter Fabrice Vuimeau s'est rendu au centre médical de l'Institut Pasteur à Paris, où des dizaines de futurs voyageurs viennent chaque jour recevoir des vaccins et bien sûr tous les conseils de prévention avant le départ.
Je m'appelle Sabrina Belalmi. Je suis venue avec mon fils de 3 ans parce qu'on va se faire vacciner contre la fièvre jaune, puisqu'on part en Tanzanie, dans Zanzibar, le mois prochain.
Vous aussi, vous allez vous faire vacciner?
Oui, tous les deux, parce que c'est obligatoire pour pouvoir rentrer sur le territoire. Après, oui, avec un enfant de 3 ans, effectivement, c'est important. Il a eu les vaccinations obligatoires quand il était petit, mais vaccination pour les maladies tropicales, c'est la première fois.
Est-ce qu'il y a des maladies qui, quand vous voyagez, qui vous effraient un petit peu plus que d'autres?
Forcément, toutes les maladies liées aux moustiques.
Paludisme?
Oui, paludisme, chikungunya, tout ça. En fait, on a l'impression qu'on peut vraiment les contracter à tout moment, puisque les moustiques sont vraiment autour de nous tout le temps. On est toujours en train de mettre beaucoup de répulsifs contre les moustiques. Quand vous avez un enfant, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous pensez plus à vous-même, vous pensez surtout à l'enfant qui lui-même ne peut pas se protéger. On est là pour les protéger.
Bonjour, vous appelez comment?
Christian Nicolai, j'ai 17 ans. Je suis venu me faire vacciner contre l'encéphalite japonaise, qui est une maladie que je pourrais potentiellement attraper dans la zone où je vais, dans la première quinzaine de juillet, à Bornéo. En Malaisie, absolument. C'est un voyage à but humanitaire et aussi de découverte culturelle organisée par l'école où je suis en ce moment.
Et ça a été une décision spontanée, naturelle pour vous, de venir vous faire vacciner avant ce voyage?
Oui, c'était très important pour moi parce que c'est vraiment la première fois de ma vie où je vais aussi loin et où j'ai besoin de me faire vacciner spécialement. En dehors de vaccins, vraiment, j'ai pas pris d'autres précautions et je comprends bien que là-bas, il y a des gestes, des réflexes que je pourrais avoir ici auxquels il faudra que je fasse attention, ce sera complètement différent.
Reportage de Fabrice Vuimeau. Alors, l'une des maladies citées par l'un de ses voyageurs, hein, l'un de ses patients, l'encéphalite japonaise, docteur Jean-Pierre Donne, de quoi est-ce qu'il s'agit précisément et quelles destinations sont concernées par cette vaccination?
Alors, effectivement, c'est une maladie qui était récemment identifiée, plus récemment que le paludisme, par exemple, et qui concernait l'Asie des rizières, mais dont le terrain d'action est en train de s'étendre, puisqu'on trouve par exemple cette pathologie, donc un moustique va transmettre un virus, et donc par exemple dans les faubourgs de Manille, donc là on n'est pas complètement dans la rizière, mais effectivement toute l'Asie des rizières est concernée, donc la Chine du Sud, l'Inde du Sud, l'Indonésie, les Philippines et même la petite presqu'île d'York, tout à fait au nord-est de l'Australie. Alors, pourquoi japonaise? Bah, parce que elle a été identifiée dans les rizières japonaises des îles du Sud, donc Okinawa, par exemple, et les Japonais ont très vite mis au point un vaccin. Donc cette maladie, on peut se protéger de cette maladie, qui est donc une encéphalite, donc qui va atteindre carrément le cerveau.
Vaccin qui n'est pas obligatoire. Donc cette personne, ce jeune homme qui va se faire vacciner, c'est parce qu'il a été informé des risques, parce qu'il a été bien informé, qu'il prend ses précautions.
Oui, et parce qu'il va rester un certain temps. Donc il va rester, la recommandation du ministère était à 30 jours, donc de la Direction Générale de la Santé. Donc il va rester un certain temps, il va peut-être faire des périples là-bas en Asie. Et donc il a tout intérêt à être protégé.
Docteur Jean-Pierre Donne, on va vous retrouver dans quelques instants, mais tout de suite, on va s'arrêter sur l'épais dossier qu'a publié Santé publique France, bulletin épidémiologique hebdomadaire, en date du 21 mai, qui nous concerne directement.
RFI.
Ce sont tout simplement ces recommandations sanitaires pour les voyageurs, édition 2019. Pour en parler avec nous, professeur Daniel Camus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin responsable de la veille et diffusion numérique d'informations sanitaires. Un épais document, hein, on l'a dit, il passe en revue les différents risques, qu'il s'agisse des maladies virales, traitements de prévention, flambées épidémiques, c'est très complet, c'est très touffu. D'abord, ça s'adresse à qui ces recommandations, professeur Daniel Camus, aux professionnels de santé ou aux voyageurs?
Non, c'est le document qui est édité par le Haut Conseil de la Santé publique, est un document qui est à destination des professionnels de santé. Sinon, ce serait un ouvrage de vulgarisation qui prendrait beaucoup, beaucoup plus de place et qui serait de toute façon assez rébarbatif. Alors, donc c'est vrai, véritablement un document pour les professionnels de santé. Mais qui, à travers certains sites internet, est retraduit en langage, je dirais, beaucoup plus pratique. Donc le public est informé de ce que ce Haut Conseil a édité comme recommandation.
Avec des recommandations donc qui sont réactualisées, professeur Daniel Camus, quand on suit un petit peu l'actualité de la santé, impossible de passer à côté de l'épidémie de rougeole, justement, il en est fait mention dans ce bulletin.
Oui, parce que ça devient une problématique mondiale. On n'a jamais vu autant de cas de rougeole que depuis ces derniers mois. Il y a un relâchement dans la vaccination dans de très nombreux pays, y compris la France. Et on voit donc, malheureusement, énormément d'épidémies.
Toujours en termes de vaccination, forte demande, on vient de l'évoquer à l'instant avec notre reportage et avec le docteur Donne, l'encéphalite japonaise. Et puis aussi, on y pense peut-être souvent un petit peu moins, il s'agit de la rage.
Oui, ce sont les deux vaccinations que vous mentionnez, encéphalite japonaise et rage, sont des vaccinations qui sont de plus en plus demandées. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus, en particulier vers le sud-est asiatique, des jeunes qui partent pour des séjours relativement longs, hein, ils partent pour 6 mois dans le cadre de leurs études ou de leur formation professionnelle, et on est fortement, on les incite fortement à se faire vacciner et à se protéger, car plus ils restent sur place, plus le risque s'accroît.
Professeur Daniel Camus, recommandation aussi classique qu'incontournable, prévention du paludisme, avec une réactualisation, là encore, le retrait de recommandations de protection pour 8 pays. Qu'est-ce qui détermine justement le fait que une année vers telle destination, on va prendre le traitement et une année, eh bien ce n'est plus le cas?
Non, il n'y a pas un système comme ça de balance une fois une année, une fois sur l'autre. C'est, en général, on attend qu'il n'y ait plus aucun cas déclaré dans le pays depuis au moins 3 ans pour recommander, pour dire de cesser de prendre des chimioprophylaxies ou de se protéger contre les piqûres de moustiques. Donc c'est basé quand même sur une réalité confirmée.
Une réalité confirmée sur une période suffisamment longue pour être absolument sûr de ses recommandations. Question aussi abordée, dissémination des maladies importées par les voyageurs, autrement dit, risque de transmission au retour. On parle là de quelle pathologie?
Ben, sur les fièvres de Lassa, les fièvres d'Ebola, vous avez comme ça toute une série de maladies virales qui sont particulièrement dangereuses. Heureusement, on les contient bien. mais qui font d'énormes dégâts, bien entendu, dans les pays où ils sévissent. Mais bien entendu, il faut être vigilant et veiller à ce que, surtout si ce sont des maladies vectorielles, c'est-à-dire transmises par des moustiques, eh bien, l'extension de la zone où se trouvent les moustiques fait que il y a un risque potentiel de voir ces maladies se développer ailleurs.
Merci infiniment pour toutes ces précisions, professeur Daniel Camus. Je rappelle que vous êtes médecin responsable de la veille et diffusion numérique d'informations sanitaires. On vous retrouve, docteur Jean-Pierre Donne. Prévention du paludisme, hein, c'est toujours un élément essentiel quand on parle de médecine du voyage. Qu'est-ce qui détermine tel ou tel traitement que l'on prescrive telle ou telle molécule ?
Eh bien, ça va être la résistance en fait du parasite à tel ou tel traitement. Alors, actuellement, sur la planète, il y a guère que l'Amérique centrale qui réagit encore, donc le traitement actif. Ça reste la Nivaquine que tout le monde a connue, mais c'est pratiquement le seul endroit du monde. La plupart des autres pays sont avec des paludismes beaucoup plus virulents. Donc il y a cinq modèles de paludisme, mais le plus virulent étant le falciparum, qui est susceptible de provoquer ce qu'on appelle un neuropalud, donc qui va s'attaquer directement dans le cerveau, et qui va potentiellement tuer les gens en quelques jours ou quelques semaines. Donc actuellement, effectivement, l'atovaquone proguanil, c'est-à-dire la malarone, hein, qui est le terme commercial, est fréquemment utilisé et est efficace pour la prévention du palud. Alors, on peut aussi avoir des stratégies différentes s'il s'agit, par exemple, de personnes qui vont être expatriées pendant un certain nombre de mois ou d'années, et qui pourront avoir recours, en plus de la prévention vectorielle, à ce qu'on appelle un traitement présomptif. Donc ils auront cette fameuse atovaquone proguanil malarone à disposition, mais ils l'utiliseront à dose curative au moindre signe du palud.
Alors justement, cette question du paludisme, on disait tout à l'heure, parfois on n'a pas toujours l'idée, le temps, l'occasion de prendre rendez-vous, mais en tout cas, attention à ce qu'on peut lire sur Internet avant de voyager, parce que, notamment en matière de prévention du paludisme, docteur Jean-Pierre Donne, on peut lire un petit peu tout et n'importe quoi.
Effectivement, je pense que, en dehors des centres internationaux donc qui vont conseiller les voyageurs, on peut aussi rappeler le rôle prépondérant du médecin référent qui connaît bien ces voyageurs et qui va pouvoir les conseiller quant au traitement. Il peut y avoir, par exemple, des intolérances. Il y a quelques médicaments antipaludiques qui sont moins employés parce qu'ils donnent des réactions secondaires. Je pense à la méfloquine ou l'ariam, qui, dans un tiers des cas, va donner des perturbations psychiques, psychiatriques. Donc, il vaut mieux ne pas la donner en première intention si les gens ne l'ont jamais pris. Par contre, si les voyageurs l'ont déjà pris et n'ont aucun symptôme, on peut continuer avec cette méfloquine. Et puis elle est très utile aussi pour les tout-petits, puisqu'on peut couper les comprimés en quart ou en huit pour les vraiment protéger les tout-petits du paludisme.
Et on pense bien sûr aussi aux répulsifs, aux moustiquaires avant de partir.
Absolument. Alors là aussi, il y aura en fonction de l'âge des précautions à prendre. Il y a certains répulsifs qui sont trop forts, trop puissants. Et donc, il faudra bien veiller au pourcentage de substances dans le répulsif. Et puis, penser pour les tout-petits qui ont quand même le moins de protection envisageable à la moustiquaire de poussette. Parce que cette moustiquaire va les protéger le soir. Vous savez que pour le paludisme, en tout cas, le soir et la nuit. Mais dans la journée, on a d'autres moustiques qui vont donner d'autres pathologies.
En fait, tout ça se range dans une trousse à pharmacie, on va dire la trousse de voyage, docteur Jean-Pierre Donne. Est-ce qu'il y a une sorte de composition, de liste incontournable des produits vraiment à n'oublier sous aucun prétexte ?
Oui, je pense qu'il faut un minimum. Il faut un minimum, donc en s'aidant du médecin référent dont on a déjà parlé, qui lui va pouvoir donner des traitements pour des pathologies précises, pour chacun, hein. Donc chaque cas est particulier, mais il y aura effectivement un thermomètre, une pince à épiler, des crèmes écran solaire, on n'a pas beaucoup parlé du soleil pour l'instant, alors les répulsifs, là, on a déjà parlé, des produits d'imprégnation pour les vêtements, et puis une moustiquaire imprégnée bien sûr. Et puis en cas de blessure, des compresses, des antiseptiques. on aura aussi, pour se laver les mains, le gel
hydroalcoolique,
qu'on connaît bien maintenant. Et puis, si on n'est pas très sûr de l'eau qu'on va boire et qu'on ne peut pas avoir d'eau minérale capsulée, eh bien, on pourra avoir des produits qui vont purifier l'eau.
Bon. Ça nous renvoie un message Facebook qu'on a reçu sur le site de Priorité Santé. C'est Mimi qui est au Ghana et elle nous raconte ce qui lui est arrivé. Alors vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus. On vient de me diagnostiquer la fièvre typhoïde. Je l'aurais attrapée en mangeant des fruits et des légumes qui n'étaient pas bons. J'étais pourtant vaccinée. Après le traitement, quand est-ce que je vais devoir refaire un contrôle? Est-ce que je risque d'avoir des séquelles? Comment est-ce que je peux éviter une rechute parce que je n'ose plus manger de fruits et de légumes? Comment se fait-il que Mimi, qui était vaccinée, ait pu contracter une fièvre typhoïde?
Alors, c'est vrai que c'est un vaccin qui ne protège pas à 100%. Mm-hmm. Donc, c'est un vaccin qui protège en général autour de 60-65%. Donc, on peut contracter la fièvre typhoïde. Il faut vérifier aussi qu'on n'a pas affaire. C'est que dans la famille de la typhoïde, on a les paratyphoïdes, la A et la B. Et donc, il faut être vraiment sûr que c'est une vraie Salmonella typhi, donc c'est le nom latin de cette bactérie. Et puis, il faut aussi conseiller à tous nos voyageurs de laver, de peler eux-mêmes leurs fruits, parce que quand on pèle soi-même le fruit, on a très 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 peu de risque d'attraper une typhoïde ou une paratyphoïde.
Ça veut dire que des fois, le fruit va être pelé, puis il va être rincé pour le rafraîchir, et là, l'eau va le contaminer.
Tout à fait. Si, par exemple, un ananas a été déjà ouvert une demi-journée avant, qu'il a été trempé dans le caniveau, effectivement, il peut contenir des bactéries.
C'est ce qu'on peut voir sur les étals du marché, des dames qui vendent ces fruits, ces mangues déjà pelées. Faut les acheter bien entières et les peler soi-même.
C'est ça. C'est très, très, très tentant, parce que c'est bon en plus, mais il faut vraiment les peler soi-même.
Parce que l'un des risques quand on est en voyage, d'ailleurs ça a donné tout simplement le nom à la maladie, c'est la tourista, et c'est vraiment une préoccupation pour de très très nombreux voyageurs, docteur Don.
Tout à fait. Donc la tourista, on n'a pas complété la trousse tout à l'heure, mais effectivement elle mérite qu'on emmène avec soi un antidiarrhéique, ça peut être le Turfan par exemple, et qui est très actif et qui marche très bien. Et puis si ça se prolonge quand même, parce qu'on peut avoir affaire à des bactéries intestinales assez virulentes, il ne faut pas du tout hésiter à consulter, parce que dans ces pays-là, la tourista, ils la connaissent bien.
Et puis, il y a un véritable risque de déshydratation. Docteur Jean-Pierre Donne, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et nous partons pour le Cameroun, pour Douala, où nous sommes en ligne avec Ludmila. Bonjour Ludmila.
Bonjour.
On vous écoute Ludmila, à vous.
Oui, mon souci c'est de savoir, lors de mes voyages en bus ou en avion, j'ai un souci au niveau des oreilles, que je ressens toujours les oreilles bouchées. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a à l'origine ou quelles précautions prendre.
Alors là, on n'est pas dans une pathologie du voyage, on va dire que c'est plutôt trouble du voyage, docteur Jean-Pierre Donne, mais pas mal de nos auditeurs nous ont envoyé des messages dans le même sens sur la difficulté lorsqu'ils sont à proprement parler en période de voyage, en avion, en bateau, sur la route. Ils subissent des contre-coups de ces voyages, et là, pour Ludmila, c'est ces fameux problèmes d'oreilles bouchées. Qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Oui, alors... Le plus souvent, ces symptômes surviennent dans l'avion quand il va y avoir une différence de pression barométrique entre la cabine de l'avion et puis les oreilles de Ludmila. Donc, le plus souvent d'ailleurs, ça va se passer au moment de la descente, c'est-à-dire qu'avant l'atterrissage. Et là, il faut pas du tout hésiter à faire ce que nous on appelle, alors c'est un nom un petit peu latin, rébarbatif, la manœuvre de Valsalva. Et donc, de pincer son nez et de souffler à l'intérieur pour déboucher les trompes d'Eustache, pour rééquilibrer les pressions.
Ça, oui, ça marche. C'est un nom un peu compliqué pour quelque chose de très simple. Alors, on imagine le geste.
C'est pour ça qu'avant, à bord des avions, mais je crois que ça n'existe plus beaucoup, on donnait des bonbons à sucer aux passagers, ce qui faisait que ça débloquait la trompe d'Eustache en même temps et ça rééquilibrait les pressions. Alors, tous ces phénomènes qui surviennent le plus souvent en avion, mais ça peut survenir si on monte en altitude, au Mont Cameroun par exemple, Et je pense qu'il faut vraiment les combattre, alors en faisant cette manœuvre, mais aussi en ayant la certitude qu'on n'a pas une inflammation de la trompe d'Eustache, parce que très souvent les gens ont une petite inflammation chronique de cette trompe d'Eustache qui va favoriser les déséquilibres de pression et qui va occasionner les symptômes.
C'est pour ça, docteur Jean-Pierre Adon, que l'on déconseille fortement un voyage en avion, par exemple lorsque l'on est atteint d'une otite.
Tout à fait. Alors tout à fait, là, il faut remettre le voyage parce qu'on risque une otite bien plus sévère encore, barotraumatique, hémorragique, avec du sang qui va sortir par le conduit auditif.
Donc attention aux oreilles quand on va en avion, en tout cas pour vous, Ludmila, si vous avez une petite pastille au menthol, pourquoi pas avant de décoller, peut-être que déjà ça peut vous soulager de manière ponctuelle. Voilà pour cette réponse. On vous souhaite une excellente journée à Douala. On va partir en République démocratique du Congo, à Kinshasa, Kin, où l'on retrouve Ramazani. Bonjour Ramazani.
Bonjour.
On est à votre écoute, allez-y.
Oui, j'ai deux petites préoccupations.
Allez-y.
Quand je voyage à bord d'une moto sur une longue distance et à de longues heures, j'ai le problème de manque de sel pendant un ou deux jours après. Alors, que faut-il faire pour prévenir ces problèmes?
Alors, on a une question à peu près similaire de Hassan qui est au chat, question Facebook. Comment expliquer qu'on puisse avoir des problèmes de transit en voyage, diarrhée ou constipation, hein? C'est un problème récurrent que nous signalent les auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, docteur Jean-Pierre Donne?
Alors, on va répondre donc pour les troubles du transit. Effectivement, il peut y avoir un phénomène d'inquiétude. Hein, les gens prennent pas l'avion tous les jours. Ils peuvent être inquiets si c'est les premières fois ils prennent l'avion. Après, ils voient que tout se passe bien et ils ont moins de problèmes. Mais ça peut être simplement l'inquiétude de ce moyen de transport. Alors, par ailleurs,
Il voyageait en moto, hein, alors, Ramazani, voilà. Donc l'avion n'était pas concerné, alors, mais c'est ce dépaysement qui lui complique le transit.
Alors là aussi, si c'est un trajet qui est un petit peu long en moto, il faut peut-être penser à la déshydratation, hein, surtout si vous faites ces trajets sur l'Afrique, dans la mesure où on sait très bien quand il y aura une déshydratation, il va y avoir une facilité pour la constipation.
Ramazani, quand vous voyagez, vous buvez suffisamment? Vous arrêtez fréquemment?
Bon, parfois, je n'emploie pas beaucoup d'eau.
Voilà, je crois qu'il faut penser. Alors, ici, sur l'Europe, on dit toujours 1,5 litre d'eau par jour. Sur l'Afrique, c'est le double.
Donc, s'arrêter régulièrement et boire bien de l'eau. Puis quand on est en moto, on ne boit pas autre chose que de l'eau, hein, bien sûr. De l'eau ou un jus de fruits pour se donner des forces. Mais en tout cas, s'hydrater suffisamment pour ne plus avoir ces problèmes de transit, Ramazani. Vous aviez une autre question?
Bon, la deuxième question est déjà répondue, elle a été répondue avec le premier auditeur.
C'était avec les problèmes d'avion et le problème de pression dans les oreilles, c'était bien ça?
Oui, oui.
Eh bien, on vous souhaite une très bonne journée à Kinshasa, Ramazani, très bonne journée à vous. On a aussi un message Facebook d'un auditeur, Fabrice, qui est en Roumanie. Il nous explique qu'il a un bébé de 3 mois. En septembre, il va aller au Cameroun. Il y est déjà allé avec son épouse en 2016. Il a connaissance, bien sûr, de ses vaccins obligatoires, mais il s'inquiète pour son bébé. Il demande donc des conseils particuliers, en effet, de partir avec un nourrisson lorsque l'on voyage loin. Est-ce qu'il y a des précautions particulières qui vous viennent en tête, docteur Jean-Pierre Donne?
Oui, là aussi, puisqu'on en parlait juste avant, l'hydratation est très importante, hein, puisque le nourrisson, il vit en Europe et d'un seul coup, il va être soumis peut-être à des écarts thermiques plus importants. Donc ça, c'est important. S'il a moins de 6 mois, effectivement, on ne pourra pas le vacciner contre la fièvre jaune. Donc il faudra lui faire une protection anti-moustique, anti-vectorielle, assez important. Donc là, on reparle de la moustiquaire de poussette, ça c'est très important. Et à partir de l'âge de 6 mois, on pourra effectivement, de la même façon qu'il aura la possibilité de faire le vaccin rougeole, il faudra qu'il fasse le vaccin fièvre jaune. Voilà, d'autant qu'il ira localement, par exemple, au village.
Et puis aussi s'informer pour éventuellement son alimentation une fois qu'on est sur place, en fonction du fait si soit il est allaité ou soit il a du lait en poudre, savoir si tous ces produits sont disponibles sur place, docteur Donne.
Absolument, je crois qu'il faudra même prévoir quelques
boîtes au cas où,
boîtes
si jamais il n'est pas
pour
allaité.
Pour le début du séjour, avant de trouver ses marques sur place.
Un point essentiel qu'on n'a pas encore abordé, docteur Jean-Pierre Donne, indispensable que pour les patients, les personnes qui souffrent d'une maladie chronique, bien penser à partir avant le voyage, avec non seulement, bien sûr, l'ordonnance, mais aussi avec les médicaments.
Ah oui, oui, parce qu'ils vont peut-être ne pas les trouver dans le pays où ils vont se rendre. Donc, le médecin référent fera une ordonnance qu'ils vont garder avec eux. Si possible, une ordonnance qui va être lisible dans d'autres pays. Parce que des fois, on tombe bien sûr sur des pays anglophones, donc il faudrait qu'ils puissent justifier les médicaments qu'ils vont avoir avec eux par une ordonnance.
Non seulement l'ordonnance, mais aussi la boîte pour avoir toutes les indications dessus. C'est très important.
Tout à fait, et peut-être les garder en cabine avec eux, parce que, comme vous le savez, il y a de temps en temps des valises qu'on ne retrouve pas tout de suite. Et donc, il vaut mieux qu'ils aient, par exemple, s'ils ont un diabète, qu'ils aient leurs médicaments et éventuellement leur insuline avec eux.
Toujours à portée de main. Autre cas qu'on n'a pas abordé, voyager lorsque l'on attend un bébé. On a parlé tout à l'heure des nourrissons, des femmes enceintes. Là encore, des précautions particulières à prendre?
Oui, alors déjà, au plan du terme, je crois que c'est pas trop raisonnable de faire des voyages en avion lointain à partir du 8e mois. Je crois qu'il faut essayer d'être raisonnable si on peut.
À moins qu'on ait envie d'avoir un petit bébé voyageur, hein, ça alors, peut voilà, être une solution.
Oui, mais alors actuellement, c'est le gynéco-obstétricien qui va décider si la femme enceinte va pouvoir voyager.
Bien évidemment, une consultation avant le départ pour avoir en quelque sorte le bon de sortie du territoire pour pouvoir justement monter dans l'avion lorsque l'on est enceinte.
Oui.
Alors partir d'une région tempérée pour un voyage vers la zone tropicale, mais on peut aussi se préparer à voyager quand on est africain sur le continent africain. Tout de suite, on va rejoindre le docteur Guindo.
RFI.
On vous retrouve en ligne, docteur Fatouma Guindo, bonjour.
Bonjour, vous madame
êtes,
Paris.
Vous êtes directrice médicale de la polyclinique Guindo à Bamako, spécialisée dans la consultation pour les pathologies du voyage. Alors, vous vous trouvez actuellement à Montréal, compte tenu du décalage horaire, nous avons donc enregistré cet entretien. Au cours de l'émission, hein, depuis tout à l'heure, on a abordé pas mal de précautions à prendre avant de voyager, surtout lorsque l'on change de latitude. Mais docteur Fatouma Guindo, il y a des précautions spécifiques à prendre, y compris lorsque l'on vit en Afrique et que l'on se déplace dans un autre pays du continent. Par exemple, pour un déplacement interafricain, vous diriez que le plus important, c'est le pays de destination ou les conditions du séjour?
En fait, les deux sont importants. Le pays de destination est très important parce que les pathologies divergent selon le pays de destination et la zone de destination aussi importante. Donc, est-ce qu'on va en zone rurale? Est-ce qu'on va en zone urbaine? Et la durée du séjour est également très importante à prendre en ligne de compte pour prévenir les maladies contagieuses et infectieuses.
Alors, la consultation du voyage, docteur Guindo, est-ce qu'elle est entrée dans les mœurs? Est-ce que les personnes se préparent pour voyager? Est-ce qu'ils y pensent? Ou est-ce qu'ils ne prennent pas vraiment de rendez-vous avant de traverser les frontières?
Alors, c'est pas du tout une consultation qui se fait de façon habituelle, surtout de pays africains à un autre. C'est pas une consultation qui se fait d'emblée. Donc, des fois, les gens ne vont prendre aucune précaution, même si on le sait qu'il y a des précautions à prendre. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir rentrer directement dans les mœurs petit à petit, finalement.
Alors, cas particulier pour celles et ceux qui décident de partir en pèlerinage, ils veulent par exemple préparer le voyage vers la Mecque. Est-ce qu'il y a dans ce cas précis des précautions particulières à prendre, docteur Fatouma Guindo? On sait qu'il y a la multitude, la masse de personnes concentrées en un même lieu, avec aussi tous les risques associés, par exemple, à la déshydratation.
Absolument. Alors, vous comprendrez bien hein, qu'il y a un risque important de propagation de maladies infectieuses et contagieuses. On parle de 2 à 3 millions de pèlerins de différents horizons qui affluent autour d'un même site. Donc, il est absolument obligatoire de prendre des vaccins. On parle de vaccins contre la fièvre jaune, contre le choléra, contre la méningite, contre la fièvre typhoïde et contre la grippe pour aller à la Mecque. Et à partir de l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on recommande aux patients, c'est vraiment de prendre la prophylaxie antipaludienne. Alors, il s'agit de prendre des comprimés d'artémether et de lumefantrine 3 jours avant le départ. Donc, on s'assure qu'en quittant le territoire, on n'est pas porteur de vecteurs antipaludéens. Il faut également, comme on a dit tout à l'heure dans l'émission, prendre les médicaments habituels et on recommande de prendre des antibiotiques à large spectre, par exemple pour éviter d'avoir une diarrhée infectieuse ou pour traiter une maladie respiratoire. On recommande également de prendre des antalgiques ou des anti-inflammatoires en cas de douleur.
Tout ça dans la fameuse trousse de première urgence, hein, on en a parlé aussi, c'est très important. Pour ce type de déplacement en particulier, est-ce que c'est important, docteur Guindo, de prendre une assurance rapatriement ?
Ah oui, c'est vital. L'assurance rapatriement sanitaire est une assurance capitale. C'est une assurance qu'on acquiert en prévision d'un voyage afin de couvrir les risques éventuels liés en cas de pathologie urgente. C'est une assurance qui est fortement recommandée de prendre pour parer en fait à toute urgence médicale nécessitant une évacuation sanitaire.
Et peut-être deux derniers conseils, justement, toujours en termes de prévention. Docteur Fatouma Guindo, quels sont les messages que vous souhaiteriez faire passer ?
En fait, je crois que le message le plus important, c'est de consulter en clinique prévoyage avant les déplacements. C'est de s'assurer qu'on a vraiment une bonne prophylaxie antipaludéenne, une prophylaxie contre la diarrhée du voyageur, une prophylaxie contre les vecteurs, la transmission des vecteurs. Donc, on parle de malaria, de dengue, de chikungunya, etc. Il faut absolument faire attention aux accidents de la voie publique. C'est très important. C'est des cas de problèmes de santé majeurs. Et il faut également spécifier lorsqu'on retourne au pays qu'on a été en zone endémique de palud afin de s'assurer que les bons tests sont faits afin de diagnostiquer les bonnes pathologies.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, docteur Guindo. Je rappelle que vous êtes directrice médicale de la polyclinique Guindo à Bamako, spécialisée pour la consultation dans les pathologies du voyage. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
Et on vous retrouve, docteur Jean-Pierre Donne, pour la dernière partie de notre échange. Toujours pour parler de ces pathologies du voyage, on a parlé rapidement à l'instant de ces accidents corporels. Hein. Beaucoup de voyageurs n'y pensent pas, mais beaucoup de blessures, notamment sur la voie publique, accidents de la circulation. Comment ça se fait justement que ce risque soit notoirement sous-estimé, docteur Donne ?
Je crois que c'est le risque majeur en fait. Donc, en tout cas pour l'Afrique, mais aussi pour Asie et Amérique latine, je pense qu'il faut vraiment être conscient. Bon, il y a les pathologies, mais il y a une grande prudence à observer sur les routes si on est piéton, mais aussi et peut-être encore plus si on loue une voiture ou une moto, parce que très souvent nos jeunes font des road trips et louent des véhicules sur place. Et donc, les règles de conduite sont plus ou moins observées. Et donc, le risque est très, très grand.
Il y a un risque notamment lié, aux attitudes. Une chose très, très concrète, on n'y pense pas toujours. C'est par exemple les relations aux animaux. Pensez le rapport aux bêtes. C'est vrai qu'au nord, quand on voit un animal domestique, on est tenté d'aller vers lui. On est tenté, de le caresser, y compris les enfants. Un bébé chien, un bébé chat, c'est très attirant. Mais on va dire que dans certaines régions du monde, c'est fortement à déconseiller d'aller voir ces petits animaux bien mignons qui peuvent avoir aussi des ouais. virus bien méchants.
Oui, vous en parliez tout à l'heure. Le risque, c'est évidemment la rage. Alors en plus, la vaccination s'est beaucoup simplifiée puisqu'on est passé maintenant à deux doses à 7 jours d'écart, donc pour une protection très très longue pour la rage, probablement définitive. Donc il faut vraiment penser à faire cette vaccination avant de partir. Et puis dans les attitudes, effectivement, ne pas trop s'approcher de tous les mammifères à sang chaud en fait. Un singe qui va venir quémander de la nourriture ou faire comme ici, aller spontanément ou laisser son enfant aller caresser un petit chien.
Et il y a tous ces comportements, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure, docteur Donne, en ce qui concerne la trousse à pharmacie, c'est les préservatifs pour se protéger des IST, parce qu'on va dire que quand on est en voyage aussi, on se sent libre, on se sent bien, on fait des rencontres, et il faut penser justement à se protéger face à toutes les éventualités.
Oui, alors en plus, effectivement, les préservatifs, je pense qu'il faut aussi être protégé, puisqu'on parle de vaccination, pour vérifier qu'on est bien protégé pour l'hépatite B, parce que c'est une des maladies qui est transmise par voie à la fois sanguine, si on a un accident de la route par exemple, ou par voie sexuelle, donc il faut vraiment être tout à fait sûr de sa protection hépatite B.
Alors aussi, on rentre, on se sent pas bien. Qui va-t-on consulter, docteur Jean-Pierre Donne ? Et justement, quelles informations donner aux médecins quand on a certains symptômes, certains signes qui peuvent prêter justement à s'inquiéter ?
Effectivement, dans le voyage, il y a l'avant, pendant et après. Donc, ce qu'on appelle un peu la prévention, la protection holistique de l'ensemble du voyage. On prend tout en charge et il faut pas du tout hésiter, si on a un symptôme au retour, à venir consulter. Alors, en public, en privé, dans les centres médicaux, le centre médical international. Et puis, ne pas créer une perte de chance en attendant trop longtemps pour consulter. Et en particulier, si on a ramené un palu, par exemple, qui va aller de mal en pis et peut-être avoir une issue funeste si on ne fait pas tout de suite une consultation.
Pour éviter le pire, justement, comment identifier ces signes, ces symptômes, docteur Donne, vous diriez quoi? Bien sûr, la fièvre en numéro 1?
Alors, la fièvre en numéro 1, mais c'est aussi le symptôme ancien. On disait palu égale fièvre. Alors, il n'y a pas que la fièvre. Mmh. On peut très bien avoir l'impression d'être dans du coton, de marcher à côté de ses pompes. Et effectivement, on est peut-être en train de démarrer un neuropalu.
Une fatigue inexpliquée, en dépit, bien sûr, du décalage horaire. Mais quand on parle de l'Afrique subsaharienne, il n'y a pas vraiment de décalage. Donc là, on peut vraiment s'inquiéter.
Oui.
Justement, peut-être un dernier conseil. On parlait tout à l'heure des maladies chroniques. Comment est-ce qu'on prend un traitement quand on change d'horaire, quand on est décalé, pour ne pas justement rater les rendez-vous?
Alors effectivement, sur l'Afrique, on n'a pas trop de soucis. On l'a sur l'Asie et l'Amérique du Sud. Je pense qu'il faut tout doucement se recaler dans l'heure où on est vraiment, surtout si on a un séjour qui va être un petit peu long. C'est un petit peu compliqué sinon de mettre le réveil à sonner pour prendre un comprimé et rester à l'heure française.
Et toujours bien sûr garder en tête, quelles que soient les latitudes, les principes élémentaires d'hygiène, lavage des mains, on a dit tout à l'heure les bouteilles capsulées, hein, c'est
voilà.
Important.
Vous ouvrez vous-même la capsule parce qu'elle a pu être remplie à l'eau du robinet, donc il faut vraiment être très prudent sur ces pratiques.
Et dans certaines régions, éviter les baignades en eau douce.
Alors voilà, donc là aussi, il y a en eau douce des
parasites ou des vecteurs.
Par exemple, des vecteurs. Je pense à la bilharziose, qui va avoir son cycle même dans une cascade à Madagascar. Donc il faut vraiment être très prudent. On peut se baigner en eau de mer, alors avec d'autres dangers.
On va éviter les requins.
Les requins, les poissons-pierres, etc. Mais essayer d'éviter les baignades en eau douce, parce que là, on a de façon un peu ubiquitaire un risque d'attraper une bilharziose.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce thème des pathologies du voyage. Merci d'avoir répondu à notre invitation, docteur Jean-Pierre Donne. Je rappelle que vous êtes médecin au Centre Médical International à Paris. L'alimentation, la santé, on en parle tout de suite avec vous. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des bienfaits du régime méditerranéen. Tout d'abord, on commence par une petite définition.
Alors, on parle souvent du régime méditerranéen, mais on devrait parler des régimes méditerranéens, parce qu'en fait, c'est les régimes de tout le pourtour de la Méditerranée. Alors, c'est vrai que celui qui est le plus connu, j'allais dire, c'est le régime crétois, donc qui vient de cette île grecque, la Crète. Mais du coup, on est sur un champ assez large de régimes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle de régime méditerranéen positif, on parle du régime traditionnel, parce qu'aujourd'hui, toute cette partie-là de la Méditerranée était fortement frappé par la transition nutritionnelle, et ces modèles ont beaucoup changé, sont beaucoup occidentalisés. Donc toute la chronique, on reviendra vraiment sur le régime traditionnel méditerranéen crétois. Et ce régime, il est intéressant au niveau nutritionnel, mais il est aussi intéressant parce que c'est aussi un modèle de convivialité, de plaisir de manger et de bien manger, ce qui allie deux choses, du coup, la bonne alimentation sur le plan qualitatif, quantitatif, mais aussi sur le plan social.
Alors on va justement détailler ce qu'est ce régime méditerranéen, donc comme vous l'avez précisé pour aujourd'hui, ce régime crétois.
Alors déjà, tout bêtement, c'est déjà un modèle qu'on appelle raisonnable, c'est-à-dire avec en quantité consommée, qui contient une forte diversité alimentaire, et enfin qui est basé aussi sur les aliments locaux, ce qui permet de réduire fortement tous les aliments transformés et ultra transformés. Maintenant, si on rentre plus dans le détail, on peut retenir six grands principes. C'est une consommation déjà quotidienne importante de fruits et de légumes, ce qui rentre dans toutes les recommandations. C'est une consommation aussi de légumes secs, qu'on appelle les légumineuses, comme les lentilles et les pois chiches. Une consommation de céréales, alors plutôt du blé et de l'orge, avec une consommation régulière de céréales complètes. L'utilisation d'huile d'olive ou d'huile d'argan, qui sont riches en polyphénols. une consommation faible de viande et surtout de viande rouge. Et alors là, c'est là où il y a un peu de variation suivant les pays. Ça va être une consommation modérée et diversifiée de produits laitiers et une consommation modérée et diversifiée de poissons. Alors là, il y a des pays, comme ils sont au bord de la mer, qui consomment beaucoup plus de poissons, d'autres un peu moins. En moyenne, on considère à peu près que c'est 2 fois par semaine du poisson.
Alors, du côté des boissons, est-ce qu'il y a des boissons particulières ?
Alors oui, c'est un modèle qui déjà, il y a beaucoup de consommation d'eau, donc une bonne hydratation. Suivant les pays et les religions, une petite consommation de vin rouge, notamment pendant les repas. Et dans beaucoup de pays aussi, c'est des pays où il y a beaucoup de consommation d'infusion.
Alors on a parlé des différents aliments maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce mode alimentaire traditionnel ?
Alors déjà, il y a une question qui est récurrente en nutrition depuis de nombreuses années, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit manger pour vivre vieux et en très bonne santé. Et c'est vrai que ce régime crétois revient par période très à la mode, un peu comme le régime miracle pour obtenir ce résultat-là. Alors, on sait aujourd'hui que c'est pas, comme tous les régimes, il n'est pas miraculeux, mais par contre, toutes les études convergent pour dire que quand même l'impact santé est très positif, hein, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il est protecteur, c'est-à-dire qu'il baisse vraiment les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, du diabète et de certaines formes de cancer. Donc, c'est vraiment un régime qui est très, très intéressant. Maintenant, par contre, il faut faire attention, c'est pas non plus un régime miracle, mais c'est vraiment un régime intéressant.
Alors, recommandations pratiques maintenant, Stéphane, pour nos auditeurs qui voudraient adopter ce régime particulier.
Alors, la première chose déjà, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent dans des pays qui sont pas sur le pourtour de la Méditerranée, c'est qu'il peut être fait partout, en fait. C'est-à-dire que les grands principes que j'ai énoncés, il suffit de prendre les recettes qu'on a l'habitude de faire un peu chez soi et de voir comment on peut les modifier en fonction. Appliquer les grands principes qui sont assez simples, hein, réduire fortement la consommation de produits raffinés, ultra transformés, revenir à de la préparation à la maison, augmenter la consommation de fruits, de légumes et de légumineuses. Donc c'est vraiment assez simple et il faut l'adapter aux recettes. Alors j'ai pris un exemple, par exemple aujourd'hui si on prend le couscous, on sait aujourd'hui qu'il est préparé à partir de farine de blé, on sait qu'il va y avoir beaucoup d'huile, beaucoup d'arômes artificiels, beaucoup de viande. Et ben il suffit de reprendre cette recette, de diminuer la quantité d'huile, de diminuer la quantité de viande, d'augmenter les légumineuses en introduisant beaucoup plus de pois chiches et en augmentant fortement la part de légumes dans ce couscous. Et on va passer d'un seul coup du même plat qui va être plutôt avec des impacts qui peuvent être négatifs dus à la grosse consommation d'huile, de viande, etc., à un plat qui devient beaucoup plus en lien avec ce régime crétois et qui va être beaucoup plus bénéfique pour la santé.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est tout ça, Maki Ophélie Lassène, Didier Bleu, aujourd'hui Pauline Leduc. Demain, nous allons parler de la santé des dents, douleurs, hygiène bucco-dentaire. Si vous avez des questions, 33 1 84 22 75 75 ou bien sûr notre page Facebook pour y laisser vos messages. À demain.
Et priorité santé avec Suno Assurance. Comme les bons chefs d'entreprise, bénéficiez de l'indemnité fin de carrière de vos employés sans préjudice avec Suno Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.